CV. Jusqu'à 14h, on en jase.
Exactement, midi 37 minutes à l'émission On en jase. L'émission qui te résume au maximum l'actualité qu'analyse pour toi les grands courants politiques et les enjeux locaux. D'ailleurs, tout à l'heure, aux alentours de 13h, on va parler local. On va parler Saint-Roch qui va pas bien encore une fois avec le propriétaire du Bâti Bazac, Sao Cordero, qui ferme son restaurant Saint-Roch pour le déménager à Charlebourg. Donc, on va jaser de ça avec lui, des enjeux qu'il vivait au centre-ville de Québec et pourquoi il quitte tout simplement.
Heureusement, il garde la cantine Bâti Bazac parce que c'est la meilleure soupe taille en ville.
Oui, mais
j'ai peur d'avoir peur.
Ce que j'ai cru comprendre, c'est que pour un petit bout seulement.
Ça aussi, oui, c'est ça, ça va partir. Exact. Après, ben, on va aller la manger à Charlebourg.
C'est ça. 3 degrés présentement au thermomètre. C'est une superbe journée de semaine de relâche. 1 degré qui va faire ce soir. Demain, ce sera moins 8 degrés, moins 2 pour vendredi. Il n'y a pas vraiment de chance de précipitation. Peut-être un petit peu de neige demain, mais ça ne sera rien, comme on disait, pour écrire à sa mère. Au sport, 2 transactions quand même assez majeures. Première dans la Ligue nationale, le joueur de 36 ans, Tyler Myers, le grand défenseur des Canucks de Vancouver, qui vient d'être échangé aux Stars de Dallas en retour d'un choix de 2e et 4e tour. Les Stars pointent au 2e rang de la division Nord dans l'association de l'Ouest et ils ont 10 victoires consécutives. Également au football, les Chiefs de Kansas City qui poursuivent leur reconstruction, ils ont échangé leur demi de coin étoile Trent McDuffie aux Rams de Los Angeles en retour d'un premier choix au repêchage, le 29e à la première séance, ainsi que d'un choix de 5e et de 6e ronde au repêchage de 2026. Et hier, le Canadien est étourdi par ce joueur.
Qui remet vers Smith. Smith aidé maintenant par Grappo. Kenton, Celebrini.
On l'a découvert aux Jeux olympiques avec le Canada. Macklin Celebrini qui ajoute 4 points au compteur. 1 but, 3 passes. Il est rendu à 87 points en 59 matchs. À seulement 19 ans, il est une étoile déjà dans la Ligue nationale. Les Sharks de San Jose qui ont battu le Canadien de Montréal 7-5. Prochain match de votre CH, eh bien, ce sera ce vendredi contre les Ducks d'Anaheim. Pascal, dans l'actualité, qu'est-ce qu'on suit?
Grosse journée encore une fois. Il y a un sondage qui est sorti et ça place le PQ et le Parti libéral très serré. On a fait le saut. 31% des intentions de vote pour le Parti québécois. Ça fait longtemps qu'il est en avance dans les sondages, plusieurs mois déjà. Mais il est suivi de très près par le Parti libéral qui est rendu à 30%. Donc, montée de 4% pour le PLQ depuis le dernier coup de sonde. Et ça, c'est toujours réalisé par Léger. On l'a fait le 29 janvier dernier. Parti conservateur d'Éric Duhaime, c'est 15%. La Coalition Avenir Québec, c'est 13%. Et Québec solidaire, ça reste pas mal dans le même pourcentage. On est autour de 9%. Dans l'éventualité où Christine Fréchette est élue chef du parti, est-ce qu'elle fait mieux 15% des intentions de vote? Donc, on peut dire que non. Et la course actuellement entre les deux principaux candidats, Christine Fréchette et Bernard Drainville, n'aide pas nécessairement à faire monter le parti.
Si vous avez manqué le caucus avec Antonine Iaccarini et Lambert Drainville, où on a décortiqué ce sondage-là, ça va se retrouver sur notre page YouTube. Allez vous abonner.
Pour Paul Saint-Pierre Plamondon et son parti, ben on réitère, hein, on continue de le dire, il y aura bel et bien une consultation pour faire du Québec un pays. Et ça aussi, ça a été sondé sur la question de la souveraineté. 29% des répondants disent qu'ils voteraient oui à un référendum présentement. Alors, c'est sûr que quand on analyse tout ça, le contexte d'instabilité mondiale peut jouer. Ce n'est que qu'un sondage, on verra pour la suite des choses. Christine Fréchette met de la chair autour de l'os en éducation. Elle est allée d'un communiqué et veut faire appel au privé, entre autres, pour construire des écoles, donc centres de services scolaires qui deviendraient locataires dans ce cas-ci. On veut innover dans la construction et la gestion des infrastructures scolaires, donc on fait appel à des partenaires du secteur privé, chose qui a été réclamé depuis longtemps. Ça va attirer l'attention, c'est certain, mais on veut louer des espaces. En ce moment, il coûte en moyenne 40 millions de dollars pour bâtir une école primaire, puis entre 250 000 et 300 millions de dollars pour construire une école secondaire. Puis on veut accélérer les choses, donc que les grands constructeurs immobiliers québécois mettent la main à la pâte, puis prennent en charge la construction de nouvelles écoles aussi. On veut une loi pour protéger les services, donc protéger les services aux élèves. On veut déposer un projet de loi. Là. Ça, ça pourrait garantir un budget pour les élèves en éducation, entre autres qui serait renfloué au rythme de l'inflation. L'été dernier, sous François Legault, on avait imposé des restrictions budgétaires de 510 millions de dollars au centre de services scolaires, puis ça avait fait vraiment réagir. Mais qui était ministre de l'Éducation à l'époque? Bernard Drainville. Est-ce calculé? On peut se le demander.
C'est clair, ça fait partie de la course à la chefferie.
On veut aussi plus de flexibilité aux écoles, puis on veut réduire la paperasserie administrative. Ça, ça veut dire quoi? Bien, des services personnalisés aux élèves partout au Québec, un petit peu plus de pouvoir d'agir et de réfléchir au niveau d'une institution scolaire. Probablement aussi que le bout de demander pour avoir de nouvelles feuilles pour mettre dans l'imprimante, on est rendu tanné là-dedans. L'extradition de Dave Picturmel, c'est le cahier de la blotte de Family Mafia, celui qui l'a lidé pendant de nombreuses années, eh bien, est en route vers le Québec. Du moins, ça a été approuvé. Alors, on le rapatrie à la maison. Peut-être une victoire pour sa mère. Lui devrait trouver ça un petit peu plus difficile parce qu'on disait qu'il était bien du côté de l'Italie. Mais la justice italienne a autorisé son extradition. Alors, je vous rappelle qu'il a été arrêté il y a à peu près un an là, à Rome. L'ex-fugitif est soupçonné d'être la tête dirigeante de la Blood Family Mafia. Il y a 15 jours pour faire appel de la décision, selon les informations des médias aujourd'hui. Les Canadiens qui sont coincés au Moyen-Orient, bien, il y a un nombre limité de sièges qui sont réservés pour les rapatrier. Et ça, c'est particulier. Ottawa en parle comme quoi c'est tout un casse-tête de ramener nos résidents canadiens d'ailleurs, du moins qui sont près du dit conflit au Moyen-Orient. Il y a peu de sièges à bord des vols commerciaux depuis Beyrouth et ça, ça fait jaser. Sinon, Mark Carney s'est exprimé très franchement, clairement, et sans barrière sur ses relations avec Trump. Il les qualifie de « pas facile ». Il dit que c'est difficile d'aller traiter plein d'informations avec lui, que c'est déchirant et qu'on doit réfléchir sur absolument tous les mots qu'on utilise avec soin pour éviter un dérapage ou un retour de bâton. Et vous l'avez constaté, tension partout, Moyen-Orient qui est l'endroit de l'or noir par excellence, ce qui fait en sorte que les bombardements, la guerre, etc., fait aussi le prix du litre de l'essence depuis en fin de semaine. On est rendu qu'on a passé de 15 cents à 20 cents dans la région de Québec.
Hier, Spotted Beauport, il y a des gens qui mettaient, qui affichaient justement sur ce média social qui est Facebook dans le groupe Spotted Beauport. « Hey! À telle place, il n'y a plus d'essence, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qui se passe? On va-tu manquer d'essence? » Et Pascal, tu as creusé le tout pour nous aujourd'hui.
Oui, en fait, je l'ai remarqué, puis j'ai lu les commentaires en me disant « c'est une farce. Est-ce qu'on a un genre de papier de toilette gate numéro 2 suite à la pandémie? » Ben non. Il y a des gens qui disaient « je suis allé au tel endroit sur le boulevard Laurier. » Il y a un gars qui est sorti pour me dire qu'il n'y avait plus d'essence, qu'il était dans 8 stations-service sans essence dans le coin. Là, on est du côté de Sainte-Foy. Ensuite, quelqu'un d'autre qui dit « Pouvez-vous m'expliquer l'augmentation pendant la journée? Est-ce qu'il y a des gens qui essaient de faire de l'argent sur notre dos? » Ensuite, une chance qu'il n'y ait pas d'embargo sur d'autres produits parce qu'on voit vraiment comment le monde se garoche à nouveau. Et il y a beaucoup de gens qui commençaient à commenter qu'il manquait d'essence, effectivement, dans plusieurs stations de la région de Québec. J'ai fait le tour, j'ai fait plusieurs appels ce matin, peut-être 10 à 15 stations d'essence, peu importe elles étaient où. Et je vois qu'effectivement, à Beauport, on avait plus de stations qui allaient manquer d'essence. Du côté de Sainte-Foy, tout au long du chemin de Laurier, merci à la dame qui m'a répondu, a dit ça a été intense hier, grosse journée. À partir de 9h, des gens qui se ruaient. Ça s'est un peu calmé autour de 14h30 quand le prix a augmenté quelque peu. Mais on voit effectivement des gens se promener de station-service à station-service pour peut-être remplir les réservoirs à moindre coût. Mais là où ça a brassé, c'est à Beauport. Et il y a un détaillant indépendant que je remercie, Steve Ouellette, qui a bien voulu répondre à mes questions avec des clips aujourd'hui. Ça semble vraiment avoir été pire à Beauport, selon ma revue. Et je lui ai demandé comment ça s'est passé, sa semaine.
C'est lundi, ça a été une très grosse journée, plus que la normale. Puis hier, j'ai monté quand même assez tôt, ce qui n'est pas mon habitude, parce que mes réservoirs étaient vraiment bas en niveau.
Donc, si on courait après le papier de toilette à COVID, là, on a couru après l'essence pour la guerre en Iran.
Et pourtant, l'essence n'a jamais été plus haute que dans les dernières années, dans le coin de la COVID. On a même touché 2 $-ish mm-hmm. là, quand je demandais à ces gens-là de me remémorer à quel moment il y avait eu un prix d'essence qui était haut selon leur passé professionnel. C'était vraiment en COVID. Donc, grosse journée pour ces voilettes. Lundi, ils voient que ça augmente. Les gens viennent mettre de l'essence dans leur voiture, même s'ils n'ont pas besoin de faire un plein. Ce qui fait en sorte que pendant sa semaine, bien, ça s'écoule vite, ses réserves, et on sera à la journée d'hier.
Bien, hier, c'est sûr qu'à l'ouverture, c'était très, très bon comme vente. Et j'ai monté aux alentours de midi et demi, 1 heure. Là, c'est sûr que les ventes coupent beaucoup. J'étais obligé d'arrêter de faire la vente parce que, un, j'allais manquer d'essence, et deux, je la payais beaucoup plus cher que ce que je le vendais.
Donc, ce que je comprends, c'est que dans le baril, même si on l'avait payé moins cher, là, ça se vidait énormément. Et compte tenu que là, ces transactions se faisaient en temps réel à un prix plus élevé, bien là, il n'y a pas eu le choix de monter le prix pour, justement, tempérer les gens. Là.
Mais ça, il y en a plusieurs qui me le disaient que toute la semaine, ils ont été à perte ou presque parce que y avait dans leur inventaire, mettons, un prix qu'eux payaient à 1,49 mais il était vendu 1,37. Puis c'est comme une stratégie qu'ils décident d'avoir pour ne pas perdre la clientèle en se disant, ben, tu sais, tout le monde est un peu à ce prix-là. Moi, je vais continuer de le mettre bas, même si je fais des pertes, parce que je veux garder mes clients à plus long terme, puis pas qu'ils se rappellent de ma station d'essence comme étant celle toujours la plus haute. Mm-hmm. Quand on en manque, il se passe quoi?
À partir du moment où ce que je manque d'essence, il y a une livraison qui arrive que je paye beaucoup plus cher. J'aurais pas pu soutenir la vente, là, donc j'ai été obligé de faire l'augmentation du prix rapidement dans la journée.
Il a complètement changé ses stratégies de base.
Ben, en fait, c'est qu'il n'a pas eu le choix parce qu'il a réussi à vider son inventaire au complet. Et là, la nouvelle essence qu'il vendait à ses clients... Ben, il était beaucoup trop à perte. Alors, il a monté un peu son prix d'essence qu'on a vu partout dans les stations d'essence à travers la ville de Québec. Et ça a eu des conséquences sur les clients parce qu'ils s'en sont rendus compte.
Bien, aussitôt que le prix est monté dans l'affichage au chemin, c'est automatique. Là. Ça coupe à 80% les clients, soit continuent le chemin ou vont carrément ailleurs. Là. Mais tout le monde dans mon secteur, à moi, était monté.
Parce que Pascal, ouais, c'est ça, pour le rappeler, c'est qu'hier, il y avait plusieurs stations qui montaient comme ça, mais il y en avait d'autres qui restaient plus basses parce que j'imagine le réservoir était plus plein. Donc, ça faisait en sorte que là, les clients avaient l'embarras du choix. C'était hier. Aujourd'hui, la hausse est quand même là entre 10 à 20 sous là, dans la région de Québec.
À Beauport, le prix de l'essence hier était beaucoup moindre, ce qui a fait en sorte que ça a attiré beaucoup de clientèle. On a vidé les réserves qui étaient à un prix moindre. Et ensuite, effectivement, soit avec l'essence qui avait été payée plus cher ou avec la nouvelle livraison, ben les stations-service ont dû s'adapter et augmenter le montant. Puis il l'a dit, on a vu là, une réduction de 80% des gens. Fait qu'on a calmé la panique civile de cette manière-là. Est-ce que des gens apportaient des bidons? On a-tu vu un genre d'enjeu de panique comme du monde qui se battait pour des papiers de toilette?
Bon, je suis pas très vieux. Je suis propriétaire de la station. Ça fait maintenant 30 ans presque. Puis j'ai vu ça, moi, dans les années 90, là, régulièrement, là, quand il y avait des hausses d'essence. Je pense que c'est la guerre du Golfe. Là, je veux pas m'avancer sur des guerres fictives, mais dans la période de la guerre du Golfe, ça a duré quand même un bon moment. Puis ça, on voyait ça régulièrement. Là, les personnes arrivaient avec des bidons puis faire des réserves, là.
Mais là, on n'a pas eu de gens qui faisaient des réserves. Et c'est le même constat que j'ai dans mes 10 à 15 appels. Au moins, on a évité le « je remplis tout ce que je peux d'essence » pour peut-être économiser dans les prochains jours.
Donc, moins pire que la guerre du papier de toilette de la COVID, mais quand même un mouvement de panique qui a fait en sorte que les réservoirs se sont vidés à Beauport. Pascal Cévé, merci pour cet excellent dossier.
Un
c'est
plaisir.
Très apprécié.
On en jase. Jusqu'à 14h.